Après avoir chanté le psaume, je vous propose de le lire dans sa version de la Nouvelle Bible Second, donc le psaume 137. Près des fleuves de Babylone, là-bas, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos lyres. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, nos bourreaux de la joie. Chantez-nous des chants de Sion. Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne mets pas Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Seigneur, souviens-toi des Édomites qui, au jour de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondations ». Babylone la belle, toi qui vas être ravagée, heureux qui te paiera de retour pour le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisira tes enfants et les écrasera contre le roc. Après cette lecture, je vais vous proposer quelques explications sur le psaume. Moi, évidemment, je n'ai pas du tout de formation de théologien et je n'ai pas l'habitude de faire l'exercice. J'ai déjà lu plusieurs fois, mais c'est la première fois que je vais vous proposer quelques explications. Et bien sûr, ce sont des suggestions qui me viennent de Dominique directement et aussi d'un livre qu'elle a bien voulu me prêter, que beaucoup d'entre vous connaissent. Hein, c'est l'auteur Thomas Romer sur les psaumes interdits. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, on vient de chanter le psaume, mais on s'est arrêté à la fin. On n'a pas chanté la conclusion avec justement l'appel à l'éradication des enfants de Babylone. Et c'est un petit peu le fil conducteur de mes explications. Parce que oui, c'est un psaume qui est choquant. Parce que généralement, on tronque justement cette harangue conclusive. C'est choquant pour les chrétiens, donc ça suscite un malaise. C'est la même chose pour les juifs qui ne lisent pas non plus cette fin. Bon, hormis apparemment les orthodoxes ashkénazes qui en font une récitation quotidienne. Mais alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette violence finale du psaume? Quelle est la cohérence du message biblique et de sa compilation de textes supposée inspirée? Et puis évidemment, ça nous ouvre un petit peu sur la violence dans la Bible. Bon, on peut penser à d'autres passages, le plus célèbre étant évidemment le jour de colère, le diassyré, ou alors d'autres prophéties. Une première clé d'interprétation. Donc là, encore une fois, je retranscris ce qu'a bien voulu m'expliquer Dominique. Il faut bien comprendre que c'est un psaume de l'exil et c'est comment est-ce qu'on reste le peuple de Dieu face à ce choc historique et politique. Donc c'est une interprétation un peu plus, paraît-il, historico-critique. Alors, le contexte, c'est après la destruction de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, qui conduit à la déportation à Babylone. D'après Thomas Romer, ce texte est vraisemblablement écrit à l'époque suivante, l'époque perse, et donc au plus tôt au 5e siècle. On y voit la naissance du judaïsme ancien, un judaïsme de la diaspora, qui ne sera plus au centre du temple jusqu'à l'époque de Jésus. Et c'est un peu la découverte et l'émergence de l'universalisme du Dieu d'Israël. On voit ce mouvement plus large dans les psaumes, entre le premier et le dernier. Le premier psaume, « Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants » et récite sa Torah jour et nuit. La Torah, ça renvoie évidemment au peuple juif. On a aussi le thème des méchants qu'on retrouve dans notre psaume. Les méchants, est-ce que ça veut dire que Dieu est impuissant face aux méchants? Et donc ces thèmes qui sont brodés et qu'on retrouve déclinés dans la plupart des psaumes. Le dernier, que tout ce qui respire loue le Seigneur, Alléluia. Évidemment, dans ce dernier psaume, tout ce qui respire, on est dans l'ordre universel. Donc est-ce que c'est un psaume inédit? Pas forcément. Mais en tout cas, sa caractéristique, c'est d'être vraiment un psaume de l'émotion, pas de la réflexion. C'est le psaume d'un peuple déporté. Et donc, comment rester fidèle à la foi en Yahvé, alors que son peuple a été vaincu? Autrement dit, est-ce que Dieu, le Dieu du peuple juif, est moins puissant que le Dieu des Babyloniens? Dans une perspective antique, évidemment, ça se comprend. dans les versets 5 et 6, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie, que ma langue s'attache à mon palais, etc., il y a le refus de s'intégrer, de s'assimiler à l'Empire. Le refus du verset 3 est net, chanté pour les Babyloniens, qui serait donc une pratique courante à l'époque, qu'on demandait au peuple vaincu, l'invitation à se normaliser, s'unir par le chant, à se fondre, à former une harmonie quelque part, c'est une demande jugée insupportable. C'est une forme de résistance religieuse et culturelle. Et évidemment, quel est le point d'appui dans notre psaume ? C'est ce souvenir de Jérusalem. Pour le peuple exilé, c'est aimer Jérusalem dans sa pureté, qui devient tout un symbole de ce que l'on est. Alors, d'après Romer, ce psaume est écrit après le retour. Les exilés n'ont jamais oublié Jérusalem. Pourquoi est-ce que je précise ça ? Parce que ça peut faire écho à d'autres livres qu'on trouve dans la Bible, par exemple les livres de Ruth ou de Jérémie. Dans les versets 7 et 9, vous avez l'expression de la colère. Souviens-toi des Édomites, Babylone la belle, tu vas être ravagé, heureux qui te paiera, etc. Alors, petite précision historique, les Édomites donc sont alliés aux Babyloniens, ils en ont profité pour s'agrandir sur le territoire du peuple juif. Voilà, moi aussi. Et au verset 9, lorsqu'on souhaite que Babylone soit ravagée et que les enfants soient écrasés contre le roc, c'est une pratique d'abord courante dans l'Antiquité, mais c'est sûr qui exprime le souhait d'arrêter la prolifération, qu'il n'y ait pas de descendance. On voit aussi qu'il y a une forme de futur qui est employée. Alors évidemment, je ne connais pas l'hébreu et l'hébreu ancien, mais j'imagine qu'il y a une tournure qui traduit cette même idée, l'idée de projection. On bénit d'avance le vengeur dans un mouvement futur pour nous et après, quelque part. Ça permet peut-être de différer, de passer à autre chose. Aussi, on note que ce n'est pas Dieu qui est désigné. C'est heureux celui qui, contrairement au psaume 136, où c'est bien Dieu qui a frappé l'Égypte dans ses aînés. Alors, on retrouve d'autres échos dans la Bible, de ne pas se venger soi-même, car la colère est à Dieu. Dans les Romains, l'Épître aux Romains, vous trouvez « Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » La vengeance est à Dieu. Est-ce que Dieu est vengeur ? On a d'autres passages qui disent l'inverse. Dieu est au-delà de la colère. Dans Osée, on trouve « Je ne reviendrai pas détruire, car je suis Dieu, et non pas un homme. Je ne viendrai pas avec fureur. » Alors, je vous laisse vous-même interpréter, parce que je n'en ai pas la capacité. Mais ce que je pense, c'est que le prier, c'est peut-être quelque part renoncer à la violence. Ça permet de sortir d'une obsession, l'obsession des vaincus, l'obsession des exilés. Et cette interprétation, qui est une forme de libération, nous conduit vers une forme de symbolisation quelque part. Et ça, c'est une deuxième approche qui est traditionnelle de ce psaume, qui est beaucoup moins répandue que cette approche historique, mais qui dit que ce psaume permet également de résister et de se relever. C'est une approche ontologique qui fait écho à d'autres textes bibliques qui permettent aussi de se constituer, de se reconstituer, de symboliser ce qui nous arrive. Cette interprétation veut que l'ennemi est intérieur. Donc l'ennemi ne serait pas vraiment les Babyloniens de l'époque, mais c'est le mal en moi, c'est l'ennemi intérieur. Donc, pour info, Origène déjà, donc c'est un père de l'Église au IIIe siècle, proposait cette interprétation. Écraser le germe qui germe en nous, voilà, c'est une forme peut-être plus individuelle, plus symbolique, et une autre approche, un peu plus psychologique, linguistique, ontologique, comme on voudra. Et j'en arrive à ma conclusion, parce que je ne voudrais pas être trop long non plus. Ce psaume de la fidélité, comment expliquer son succès quelque part ? Babylone, dans ce texte, c'est évidemment un autre nom pour les autres exils du peuple juif. On peut faire un parallèle avec l'Apocalypse. On sait bien que Babylone, c'est l'Empire romain. La diaspora qui a si souvent été la forme de vécu du peuple juif. Babylone, c'est la capitale du monde, le capital de la douleur, de l'oppression. Et peut-être que ce psaume permet aussi d'aller au-delà de la consolation ou du ressentiment. Face au choc de la violence, de cette destruction de ce que je suis, il reste la fondation de ce que je suis, le centre, Jérusalem. Cette violence dans l'expression, ça peut peut-être aussi traduire la difficulté de symboliser. Et pour cette résistance dans la fidélité, j'ai une cheville, Jérusalem. Et je laisse la conclusion à Dominique, qui m'a parlé d'un psaume de la fidélité et de la résistance dans la fidélité. Ce qui explique probablement qu'il ait été repris par d'autres groupes et qui explique aussi son succès en situation de persécution. On peut songer aux protestants en France pendant les guerres de religion, mais également les esclaves en Amérique, avec différents chants. Vous avez dû reconnaître tout à l'heure Frédéric qui jouait un petit air de Boniem. Voilà, c'est quelque chose qui peut expliquer également le succès de ce psaume, malgré son caractère un peu dur.